Radio Prague, les informations.
Commémoration à Prague de la mort des résistants tchèques 65 ans après l'attentat contre Reinhard Heydrich. Le ministre de l'Intérieur a présenté un rapport sur la corruption dans le pays. Le gouvernement a adopté un amendement à la loi qui facilite l'accès des étrangers à l'éducation en République tchèque. Le président tchèque Václav Klaus, le président du Sénat Přemysl Sobotka ainsi que la ministre de la Défense Vlasta Parkanová ont assisté à un acte de piété organisé lundi matin à Prague en hommage au parachutiste tchécoslovaque qui avait commis l'attentat contre le protecteur du Reich, Reinhard Heydrich, en mai 1942. La cérémonie qui s'est déroulée près de l'église Saint-Cyril et Saint-Méthode à Prague 2 a réuni plusieurs centaines de personnes, d'anciens combattants et de soldats de l'armée tchèque. Nous vous en dirons plus dans quelques minutes dans ces événements en République tchèque. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Ivan Langre, a présenté au gouvernement un rapport sur la corruption en République tchèque. Ce document traite de la lutte contre les pots de vin et autres formes de corruption au cours des deux dernières années. Il présente aussi les solutions qui devraient être mises en œuvre pour prévenir cette forme d'activité criminelle. Il s'agit par exemple d'un soutien plus appuyé de la part de l'État aux organisations non gouvernementales en matière de lutte anticorruption. Le Conseil des ministres a adopté une modification de la loi sur l'éducation qui facilite l'accès des étrangers à l'éducation en République tchèque. Cette législation crée des conditions égales pour les Tchèques ainsi que pour les ressortissants des pays de l'Union européenne et des étrangers disposant d'un permis de séjour d'une durée minimale de 90 jours. Les écoles primaires, quant à elles, devraient être ouvertes aussi aux enfants d'immigrés illégaux, a annoncé la ministre de l'Éducation, Dana Kurtová. L'amendement en question doit encore être avalisé par le Parlement et signé par le président de la République. La cour municipale de Prague a condamné l'Israélien Jacob Moshailov à 5 ans de prison pour avoir perpétré un attentat à la grenade contre le patron d'un casino pragois en août 2004. L'explosion en plein centre de Prague, rue Napříkopě, a fait 17 blessés. La course Blue Planet Run 2007 est arrivée lundi matin à Prague. Cette première course relais autour du monde qui a débuté le 1er juin devant le siège des Nations Unies à New York a pour objectif de récolter des fonds en faveur de l'accès à l'eau potable dans les pays du tiers-monde notamment. L'équipe mondiale de 20 coureurs représente 13 États et traverse au total 16 pays du globe. Elle quittera la République tchèque mercredi après être passée par 23 villes et villages du pays. La municipalité de Prague vient de publier le premier guide de la capitale destiné aux non et malvoyants, entièrement traduit en braille et avec des illustrations en relief. Il décrit une vingtaine de monuments historiques les plus connus du vieux Prague. La version tchèque a été tirée à 900 exemplaires et une traduction anglaise devrait bientôt être disponible dans des bibliothèques et centres de tourisme à Prague. La météo ce lundi, le temps a été variable. À partir de mardi, le temps chaud et presque estival sera de retour avec du soleil et des températures autour de 30 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Merci d'être avec nous. Voici les titres de cette édition. La position tchèque vis-à-vis de la Constitution européenne, qui a également été formulée lors des entretiens du chef de la diplomatie tchèque avec son homologue français vendredi à Paris, sera le premier thème de ces faits événements. Un tournant inattendu s'est produit dans l'enquête sur la sœur adoptive d'un garçon maltraité dont l'histoire est comparée à celle de Natacha Kampusch. La fille qui pourrait contribuer à élucider l'affaire possède une double identité et se trouve au Danemark. Ce lundi 18 juin, 65 ans se sont écoulés depuis l'attentat du protecteur du Reich, Reinhard Heydrich. Reportage sur les lieux de la cérémonie de piété à la fin de ces faits et événements. Comme toutes les semaines, à cette heure-ci, ils seront suivis de la page sportive et nous vous proposons aussi un peu de musique quand même. Très bonne écoute à toutes et à tous. En léger optimisme a marqué la rencontre entre les ministres français tchèques des Affaires étrangères, Bernard Kouchner et Karel Schwarzenberg. Ils se sont entretenus notamment sur les perspectives du prochain sommet de l'Union européenne à Berlin, qui aura pour principal objectif la rédaction d'un document devant remplacer le traité constitutionnel de l'Union, Václav Richter.
Selon le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner, beaucoup dépendra maintenant du projet qui sera présenté au prochain sommet de Berlin par l'Allemagne. Les positions des pays membres de l'Union sur ce projet ne sont pas identiques, certes, mais ne sont pas très éloignées non plus. Le ministre Karel Schwarzenberg estime qu'il en est de même des opinions françaises et tchèques sur cette question.
Il n'y a pas de divergence fondamentale dans les attitudes de la France et de la Tchéquie. Certes, dans la discussion sur le futur traité constitutionnel de l'Union européenne, nos opinions divergent légèrement, mais en ce qui concerne les problèmes essentiels, Monsieur le ministre était assez satisfait de nos échanges. Nos positions se rapprochent considérablement.
La République tchèque n'était pas d'accord avec certaines notions symboliques qui devraient figurer dans le nouveau traité. Selon le ministre Schwarzenberg, la Tchéquie ne se disputera pas à cause de symboles quand il convient de parvenir à des résolutions essentielles. Le ministre a souligné qu'il fallait surtout que les institutions européennes travaillent bien. La Pologne, qui refuse de renoncer à sa position avantageuse dans le système de décision de l'Union, apporte, elle, un peu de cacophonie dans ce rapprochement de vues des autres pays européens. Karel Schwarzenberg espère que la chancelière allemande Angela Merkel et Nicolas Sarkozy sauront maintenant trouver une solution correspondante à l'importance et à la position de la Pologne en Europe. Les chefs des diplomaties françaises et tchèques se sont également penchés sur la coopération entre la France et la République tchèque qui se succéderont à la présidence de l'Union européenne en 2008 et 2009. D'après Bernard Kouchner, une commission de travail franco-tchèque a été créée pour se pencher sur les thèmes qui seront d'actualité dans ce contexte. En ce qui concerne une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne, les attitudes de la Tchéquie et de la France divergent, tandis que Bernard Kouchner a rappelé que Nicolas Sarkozy refusait l'intégration de la Turquie. Selon Karel Schwarzenberg, la Tchéquie est pour l'admission, tout en constatant cependant que ni la Turquie ni l'Union européenne ne sont encore prêtes à faire ce pas.
Tout avait commencé avec un petit garçon maltraité par sa mère. L'un des témoins des sévices infligés à Andrzej était une autre petite fille, Anichka, âgée de 13 ans. Toute l'affaire s'est compliquée avec la disparition de cette Anichka. Elle vient de réapparaître, mais au Danemark, il y a 19 ans de plus, Alain Slivinski.
Coup de théâtre vraiment, car après des mois de recherche d'Anichka, qui aurait pu témoigner des sévices que la mère d'un petit garçon, Andrzej, lui avait fait subir, cette petite fille vient de faire son apparition à l'ambassade de République tchèque à Copenhague. Ce n'est pas un enfant, mais une femme âgée de 32 ans, qui a terminé des études supérieures et qui s'appelle, en vérité, Barbara Škrlová. Elle s'était fait passer pour la fille de Klára Mauerová, la mère d'Andrzej, avait disparu et était recherchée par la police tchèque. Barbara Škrlová reconnaît qu'elle s'est fait passer pour Anichka, mais refuse d'admettre qu'elle a vécu chez les Mauer pendant un certain temps.
Je n'ai jamais eu de problème pour vivre les deux vies en même temps, celle d'Anichka et la mienne. Je regrette que cela n'était pas vrai, que quelqu'un a prétendu être Anichka pendant un an et que ce n'était pas vrai.
Barbara Škrlová vient de demander un passeport tchèque à l'ambassade de Copenhague. Cette femme de 32 ans a pris l'identité d'une petite fille de 13 ans, aussi bien devant les policiers que dans le foyer pour enfants abandonné, Klokarnek, le petit kangourou. Sa double identité a été découverte lors de l'enquête menée sur les sévices dont avait été victime le petit Andrzej. Barbara Škrlová a envoyé une enveloppe contenant ses cheveux pour un test d'ADN et ne compte pas revenir en Tchéquie, comme le confirme le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zuzana Opetalova.
Cette enveloppe doit être collée avec sa propre salive pour confirmer par un test d'ADN qu'il s'agit bien d'elle. Nous avons quand même recommandé à Madame Shkolova de revenir en République tchèque pour qu'elle nous explique tout ce qui est assez étrange en ce qui concerne son identité.
Étrange pour le moins, et les services de la police chargés de l'enquête auront certainement encore du pain sur la planche avant d'élucider ce mystère, un mystère dans lequel une secte appelée Mouvement du Kral pourrait avoir joué un rôle important. Pourquoi en effet une femme de 32 ans s'est-elle fait passer pour une fillette de 13 ans ?
Des dirigeants politiques, des soldats de l'armée tchèque, d'anciens combattants et plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage aux parachutistes tchécoslovaques qui, le 27 mai 1942, ont assassiné Reinhard Heydrich, le redoutable protecteur du Reich. Spécialement entraînés pour leur mission en Angleterre et parachutés en Bohême, deux hommes du commando Jan Kubisch et Josef Gabčík ont perpétré le 27 mai 1942 l'attentat sur le chef du protectorat de Bohême-Moravie. Les parachutistes ont trouvé refuge dans la crypte de l'église orthodoxe Saint-Cyril et Saint-Méthode, rue Reslova. Le 18 juin, après 6 heures de combat déséquilibré contre les nazis, ils s'y sont donné la mort. Les nazis ont exécuté l'évêque Gorazd et d'autres représentants de l'église orthodoxe pour leur être apportés aux résistants. Une cérémonie a interrompu ce lundi la circulation devant la plaque commémorative sur le mur de cette église. Défilé solennel, couronne de fleurs et fanfare militaire ont marqué la cérémonie à l'occasion du 65e anniversaire du plus important acte de résistance. Pas d'allocutions officielles de dirigeants politiques, mais une messe célébrée par Yaroslav Chuvarsky, patriarche de l'Église orthodoxe.
Un hommage à Adolf Opálka, Josef Valčík, Jaroslav Schwarz, Jan Hrubý, Josef Bublík, Josef Gabčík, Jan Kubiš, le patriarche Gorazd, et à tous ceux qui ont trouvé la mort lors des combats dans les camps de concentration et les camps de travaux forcés.
Le général Tomáš Sedláček, président d'honneur de la communauté des légionnaires tchécoslovaques, était canonnier en Angleterre au moment de l'attentat. Il connaissait l'un des parachutistes, Adolf Opálka. Quelle importance attache-t-il à leur acte ?
L'importance est double, militaire et politique, puisque l'assassinat de Heydrich a affirmé la position du gouvernement tchécoslovaque exilé à Londres, et une des conséquences directes a été que l'Angleterre, puis la France, ont annulé leur signature apposée au bas des accords de Munich. Et puis, dans un autre pays occupé, un dignitaire nazi au sommet de l'hiérarchie a été assassiné.
Le général Sedláček ne doute pas de la nécessité d'éliminer Heydrich, même au prix de sacrifices tels que celui de Lidice.
Si Heydrich n'avait pas été assassiné, il aurait continué à remplir la mission pour laquelle il était venu à Prague, qui consistait à liquider les Tchèques en tant que nation, et les pertes auraient alors été énormément plus élevées.
C'était les faits événements. Merci de votre attention. Le programme en français sur Radio Prague continue avec le sport.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour. Tennis, football et canoë-kayak sont au programme de cette nouvelle rubrique. En tennis, tout d'abord, Tomáš Berdych a remporté le tournoi sur gazon de Halle en Allemagne. Une victoire bonne pour la confiance à une semaine du début de Wimbledon. En football, nous reviendrons sur la participation tchèque au championnat d'Europe Espoir, battu par l'Italie dimanche soir. Les jeunes tchèques ont terminé dernier de leur groupe et rentrent prématurément au pays. Enfin, nous terminerons avec un mot sur les championnats d'Europe de slalom, de canoë-kayak, qui se sont déroulés en Slovaquie et dont les tchèques sont revenus avec 2 médailles. En venant à bout en 2-7 accrochés, 7-5, 6-4 du chypriote Marcos Baghdatis, dimanche en finale du tournoi de Halle, Tomáš Berdych s'est non seulement offert le 3e titre de sa carrière sur le circuit ATP, mais aussi le 1er sur gazon. Déjà finaliste malheureux l'an dernier face à l'intouchable Roger Federer, quadruple tenant du titre en Allemagne, le tennisman tchèque, tête de série numéro 4, a donc profité de l'occasion qui se présentait à lui cette année en l'absence du Suisse, le numéro 1 mondial s'étant estimé fatigué après sa finale à Roland-Garros. Face au chypriote, tout de même demi-finaliste à Wimbledon et finaliste de l'Open d'Australie la saison dernière, Tomáš Berdych a su s'appuyer sur un service sans faille, notamment lors du 10e jeu de la première manche, lorsqu'il est face à 2 balles de 7 alors que Baghdatis menait 5 jeux à 4. Après avoir sauvé sa mise en jeu, le Tchèque remporta les 2 jeux suivants pour s'adjuger le gain du set et confirmer d'entrer dans le second en faisant le break dès le 1er jeu. Finalement, après avoir sauvé une dernière balle de break alors qu'il servait pour le match, Tomáš Berdych conclut sur son service, se posant ainsi en outsider pour le prochain Wimbledon.
Bien entendu, c'est encourageant en vue des prochaines échéances. Je dirais que tout a été parfaitement programmé. Je viens de gagner un tournoi et je dispose désormais d'une semaine complète pour m'entraîner et bien me préparer pour Wimbledon. Je dispose de tous les éléments pour y faire bonne figure. En attendant, je suis content d'avoir su saisir ma chance dans ce tournoi et d'être allé jusqu'au bout.
Grâce à cette victoire, Tomáš Berdych a également partiellement effacé la déception parisienne puisque le meilleur joueur tchèque actuel, 13e au classement mondial, avait été éliminé dès le premier tour sur la terre battue de Roland-Garros. Il lui reste toutefois désormais à confirmer son retour en forme sur le gazon londonien. En football, grande déception pour la République tchèque qui a terminé dernière de son groupe à la phase finale du championnat d'Europe Espoir. Les jeunes tchèques, ou Lionceaux, comme ils sont également surnommés, ont vu leurs derniers espoirs s'envoler dimanche soir à Arnhem, aux Pays-Bas, en s'inclinant logiquement 3-1 contre l'Italie. Après un premier match nul, 0-0 encourageant contre l'Angleterre lors de leur premier match lundi dernier, les joueurs de l'entraîneur Ladislav Škorpil se sont inclinés 1-0 dans le temps additionnel contre la Serbie jeudi. Une défaite cruelle qui les plaçait dans une position délicate. Avant le match contre la Squadra Azzurra, les Tchèques savaient en effet qu'il leur fallait impérativement s'imposer pour espérer se qualifier. Mais face à une équipe italienne plus mûre et talentueuse, les Tchèques n'ont fait illusion que le temps de la première période. Le 3e but encaissé juste avant la mi-temps a définitivement scellé le sort d'une équipe sans grandes individualités et incapable d'inscrire plus d'un seul but en 3 matchs. Difficile avec un si faible rendement offensif d'espérer rejoindre l'élite du football européen des moins de 21 ans, comme le concédait le buteur tchèque de la compétition, Michal Papadopoulos.
Nous étions venus ici avec d'autres ambitions. Notre premier objectif était de terminer à une des 2 premières places du groupe et de nous qualifier pour les demi-finales et ainsi pour les Jeux Olympiques. Avant l'Italie, je pense que le but concédé et notre défaite contre la Serbie dans le temps additionnel lors de notre 2e match avaient déjà plus ou moins décidé de notre sort. C'est difficile de parler sous le coup de la déception. C'est un rêve qui s'envole. Nous rentrons à la maison avec le sentiment de ne pas avoir laissé une très bonne impression, tant sur un plan collectif qu'individuel.
Les espoirs tchèques n'auront donc pas marché sur les traces de leur glorieux aîné de 2002, qui avait battu la France en finale à l'issue de la séance de tirs au but, avec notamment Petr Čech et dans les buts et Milan Baroš en attaque. Ils ne se sont pas non plus qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques de Pékin, qualification promise aux 2 premières équipes de chaque groupe. Surtout, sous les yeux du sélectionneur Karel Brückner, rares ont été les joueurs à avoir prouvé qu'ils étaient susceptibles de rejoindre le groupe de l'équipe nationale A dans un proche avenir. Voilà qui est sans doute la la conclusion la plus inquiétante de ce championnat d'Europe raté. Enfin, terminons avec un mot des championnats d'Europe de slalom, de canoë-kayak, disputés à Liptovský Mikuláš en Slovaquie. Les Tchèques y ont décroché 2 médailles, l'argent avec la paire Jaroslav Wolf et Andrzej Štěpánek dans l'épreuve de canoë biplace par équipe remportée par l'Allemagne, et le bronze avec Štěpánka Ilgertová dans celle de kayak dame enlevée par l'Autrichienne Violetta Oblinger-Peters. À 39 ans, Štěpánka Ilgertová, double championne olympique à Atlanta et Sydney, est devenue la kayakiste la plus âgée de l'histoire à monter sur un podium au championnat d'Europe. Une performance qui devrait donc la motiver à poursuivre encore sa carrière et ce sans doute jusqu'aux Jeux Olympiques de Pékin l'année prochaine.
Merci à Guillaume et comme toutes les semaines à cette heure-ci, un peu de musique quand même sur Radio Prague.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
Au XXe siècle, la musique tchèque a été dominée par un grand trio de chefs d'orchestre, Václav Talich, Karel Ančerl et Václav Neumann. Aujourd'hui, c'est sans doute Jiří Bělohlávek qui poursuit la glorieuse tradition. Bien que cet artiste soit aujourd'hui directeur musical de l'orchestre symphonique de la BBC, il ne cesse d'entretenir des contacts fructueux avec les musiciens et le public tchèque. Né en 1946, Jiří Bělohlávek étudie d'abord le violoncelle, mais il est bientôt attiré par la direction d'orchestre. Encore pendant ses études au Conservatoire de Prague, il est finaliste du concours de direction d'orchestre de Herbert von Karajan. La carrière du jeune artiste s'annonce donc prometteuse dès le début. Dès 1977, Jiří Bělohlávek devient directeur musical de l'Orchestre symphonique de Prague, FOK. Grâce à lui, le niveau artistique de cette formation augmente considérablement. En 1990, il voit le rêve de tous les chefs d'orchestre tchèques se réaliser, car on lui confie la direction de la Philharmonie tchèque, la meilleure formation du genre dans le pays. Ce succès lui apportera cependant aussi une déception. En 1992, les musiciens de l'orchestre remplacent Jiří Bělohlávek par l'Allemand Gert Albrecht. Le rêve sur l'air Bělohlávek dans l'histoire de la Philharmonie tchèque s'évanouit dans la déception et l'amertume. Mais l'artiste ne rend pas les armes pour autant et fonde l'orchestre de jeunes musiciens, le Prague Philharmonia, qui s'impose très rapidement dans la vie musicale. Déjà dans les années 1990, Jiří Bělohlávek dirigeait assez souvent, en tant que chef invité, l'orchestre symphonique de la BBC, et à partir de 2006, c'est lui qui assure la direction musicale de cette formation prestigieuse. Il se lance dans une grande carrière internationale, dirige les meilleurs orchestres américains, européens et japonais, et se produit également au Metropolitan Opera de New York et à l'Opéra de la Bastille. Depuis l'année dernière, il est aussi président du Festival international de musique Printemps de Prague. Oubliant ses démêlés avec les instrumentistes de la Philharmonie tchèque, il revient aussi au pupitre de cet orchestre et cette nouvelle collaboration donne de brillants résultats. C'est avec cet orchestre qu'il enregistre les 3e et 4e symphonies de Bohuslav Martinů, disque très apprécié par la critique internationale et nominé en 2004 pour un Grammy Award. Écoutons un fragment de la 3e symphonie que Bohuslav Martinů a créée en 1944 aux États-Unis. Thank you.
C'était un fragment de la troisième symphonie de Bohuslav Martinů. La Philharmonie tchèque a été placée sous la direction de Jiří Bělohlávek. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt sur Radio Prague.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.